Dans cette histoire des compositrices, je me suis arrêtée à cette période très faste des 12e et 13e siècles, durant lesquelles s'était fait entendre la voix des femmes, dans le domaine profane avec les Traubeirites et les femmes Trouvères, et dans le domaine sacré avec une figure comme Hildegard von Bingen. Il s'agissait de musique monodique. Nous ne trouverons aucune figure comparable dans le domaine de la musique polyphonique qui émerge à la même époque, et les compositrices seront absentes pour 3 siècles de l'histoire de la musique. Les femmes sont là pourtant, mais l'anonymat est la règle le plus souvent, pour les hommes comme pour les femmes. De plus, les conventions de modestie et les devoirs liés à la classe sociale leur imposent d'être le plus discrète possible. Rappelez-vous que Hildegard von Bingen prétendait n'avoir pas reçu d'instruction humaine et recevoir de Dieu directement tout ce qu'elle composait. Pourtant, les femmes ont chanté cette musique polyphonique. Les preuves existent dans les textes et dans l'iconographie. Si aucun nom de compositrice n'apparaît pour la musique polyphonique médiévale, c'est aussi que l'apprentissage de cette écriture très complexe se faisait dans les écoles des cathédrales, dont les filles étaient exclues. Les femmes sont donc présentes à la fin du Moyen-Âge en tant qu'interprètes, mais aussi en tant que mécènes ou protectrices des musiciens. Les filles de la noblesse reçoivent souvent une éducation musicale qui leur permet de jouer de divers instruments et aussi de supporter l'enfermement dans lequel elles sont tenues. Et puis plus tard, lorsqu'elles atteindront à des positions élevées, elles seront assez averties en matière de musique pour défendre les musiciens, les entretenir, se faire préparer des chansonniers, comme l'ont fait Béatrice d'Aragon, Marie de Bourgogne, Anne de Bretagne ou Isabelle d'Este. Isabelle d'Este, par exemple, a joué un rôle important dans le développement de la frottole en improvisant elle-même ce genre de chansons, en choisissant des textes de valeur, en poussant les compositeurs à les mettre en musique et en employant des chanteuses professionnelles à la cour de Mantoue, par exemple Giovanna Moreschi, la première épouse de Marchetto Cara, morte en 1509. les femmes ont-elles eu une renaissance ? Cette question était le titre d'un article d'une historienne américaine, paru en 1987, qui se demandait si on pouvait réellement appliquer les catégories historiques traditionnelles à l'histoire des femmes. En effet, notre connaissance de cette époque repose sur des écrits d'hommes cultivés, de conditions aisées, dans un environnement chrétien, et qui s'adressent à d'autres hommes cultivés, de conditions aisées, dans un environnement chrétien. Or, la vie des femmes de la Renaissance est conditionnée par leur sexe autant que par leur classe sociale et économique. Leur vie est, pour l'immense majorité d'entre elles, privée. Elles sont éduquées pour que leur vocation soit la vie domestique, mariage, maternité et intendance de la maison. Une femme en âge de se marier ne peut pas prétendre à l'indépendance. Entrer dans un couvent est réservé aux filles aisées, puisqu'une novice doit apporter sa dot. Si on peut lire ça et là dans la littérature de l'époque la mention de jeunes filles remarquablement douées pour des matières académiques ou artistiques, on remarque aussi que ces jeunes filles disparaissent entre 15 et 20 ans, enfermées chez leur mari ou dans un couvent. Certaines femmes, néanmoins, ont une vie publique en dehors de leur vie privée. Certaines femmes nobles, actives en politique de par leur haut rang, et aussi certaines religieuses, les courtisanes, les sorcières, c'est-à-dire celles qu'on juge comme sorcières et qu'on brûle en place publique, et, enfin, quelques musiciennes professionnelles. C'est parmi les nobles, les religieuses ou les musiciennes professionnelles que nous trouverons quelques compositrices. La définition de compositrice demande déjà une petite précision pour cette époque. Certainement, beaucoup de musique dans les cours était improvisée, chantée en s'accompagnant aux luttes. La musique écrite n'était pas jugée supérieure, il n'y avait donc pas lieu de l'écrire. La séparation entre interprète, improvisateur et compositeur, que nous connaissons aujourd'hui, ne se justifiait pas nécessairement. L'éducation des femmes nobles leur permettait de noter leur musique, mais sans doute pas de la signer. Le manque de sources n'implique donc pas obligatoirement que les femmes n'aient pas composé. Mais elle ne se définissait pas comme compositrice. La première femme à s'être considérée comme telle est Maddalena Casulana. Thank you. Maddalena Casulana, musicienne professionnelle, est la première femme à se considérer comme compositrice et aussi la première à avoir publié sa musique en 1566, à l'âge de 26 ans. J'ai insisté lors de la série sur la Renaissance sur l'importance de la naissance de l'édition musicale avec les premiers livres de Petrucci en 1501. Il a donc fallu 65 ans pour qu'une femme profite de cette nouveauté technologique. C'est à la fois beaucoup et peu si l'on considère les mentalités de l'époque. Une pièce d'une femme avait été intégrée à une publication de Enestrosa en Espagne 10 ans auparavant, mais c'était une simple pièce isolée. Dans la préface de son premier livre de madrigaux, dédié à Isabelle de Médicis, mécène ayant elle-même composé de la musique, Casulana explique que par ses faibles madrigaux, elle veut montrer au monde la sotte erreur des hommes qui sont tellement persuadés d'être les maîtres des performances intellectuelles qu'ils ne pensent pas que ces performances puissent aussi être partagées par les femmes. Elle était certainement reconnue depuis longtemps comme compositrice au moment où elle a publié, puisqu'on lui avait déjà commandé une œuvre spécialement pour un mariage royal. Elle vivait de sa musique comme interprète et compositrice et donnait des leçons de composition. Ses madrigaux montrent un goût harmonique très sûr et beaucoup d'art dans le figuralisme. Vittoria et Raffaella Aleotti sont peut-être une seule et même personne. Et sous ces deux noms, on trouve des madrigaux et des motets. Il s'agirait d'une nonne entrée très jeune dans un couvent, d'abord pour parfaire son éducation musicale, puis pour consacrer sa vie à sa vocation religieuse. Elle ne se définit pas elle-même comme compositrice, mais elle a une activité musicale constante, et cela jusqu'à un âge avancé. Dans Histoire 2 ce matin, vous avez entendu l'ensemble Anonymous Four dans un motet anonyme, Vox Nostra Resonet, puis Père de l'or de Marchetto Cara par l'ensemble Douce Mémoire, et puis l'ensemble Laos Consentus dans deux madrigaux de Maddalena Casulana, un de Isabelle de Médicis et un de Vittoria Aleotti. Cette émission a été réalisée par Pierre-André Fautrier avec Valérie Lavalard et Françoise Monteil.